Vous écoutez Un Siskoiapel. Bonjour tout le monde, vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88,3, vous êtes en compagnie de l'équipe d'Un Siskoiapel, votre émission féministe et libertaire favorite. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Claire, bonjour Claire.
Salut.
Et de Chantal à la mise en onde et à la musique. Donc, on va vous parler des manifestations contre les mesures du budget Bachand, également de la journée internationale pour en mémoire des personnes transgenres, en fait, qui s'est tenue un peu partout dans le monde, mais on va vous parler plus particulièrement d'actions qui ont eu lieu à Ottawa. Également, Claire, en fait, tu vas nous faire
une petite chronique, un petit retour sur des actes électroniques féministes en ligne que je vous conseillerais vivement d'aller voir.
Parfait. Puis, on va aussi entendre Evelyne Dumas-Dubuc, une autre personne qui fait partie de l'émission, qui va nous parler d'un livre très intéressant qui est paru aux éditions Remue-Ménage. C'est sur l'intervention féministe. Donc, on commence tout de suite avec les manifestations contre les mesures du budget Bachand qui ont eu lieu Action nationale et régionale le 23 novembre. Donc, c'est un vaste mouvement de protestation. Donc, l'initiative, évidemment, revient à la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Peut-être vous rappeler, on en a parlé souvent, ainsi soit-il, mais que cette coalition est composée de 120 groupes communautaires, syndicaux, étudiants et féministes. Donc, comme le FRAPRU, par exemple, la FFQ, etc. Il y a aussi une coalition régionale qui s'est mise sur pied à Québec, on en parlera plus tard. Donc, toutes ces manifestations-là, évidemment, avaient lieu donc le 23 novembre, une action nationale à Montréal, des actions un peu partout, à Gatineau, Québec, Sherbrooke, Rivière-du-Loup et Longueuil. Elle visait, dans le fond, à dénoncer les mesures du budget Bachand, donc à faire reculer le gouvernement libéral. D'ailleurs, sur l'affiche, on pouvait voir, dans le fond, les services publics sont dans la rue, halte à Charest. Au nombre de ces mesures-là, on peut nommer, entre autres, la contribution santé annuelle de 200 $, hein, qui est dénoncée par plusieurs groupes de femmes. D'ailleurs, on vous a parlé, pas plus tard que la semaine dernière, des occupations que des centres de femmes ont fait pour dénoncer spécifiquement cette mesure-là. Évidemment, la hausse des frais de scolarité, des tarifs d'électricité, etc., etc. Donc, les revendications, c'est de mettre un frein à ces compressions budgétaires-là, puis d'axer, dans le fond, une analyse plus sur la redistribution de la richesse. Donc, au nombre des exemples que la coalition propose, on pense à hausser l'impôt des contribuables qui sont plus aisés, à lutter contre l'évasion fiscale, etc. Donc, les actions, bon, à Montréal, la grosse action nationale, je vous dirais qu'en particulier à Québec, la majorité des groupes avaient fait le choix d'aller à Montréal plutôt que de mobiliser à Québec. Donc, il y a eu plus d'un million de manifestants et manifestantes qui ont bloqué pendant plus d'une heure l'accès au siège social d'Hydro-Québec. À Gatineau, dans le secteur de Hull, il y a une cinquantaine de manifestants et manifestantes qui ont bloqué aussi l'entrée d'un centre de santé privé. Donc, vous voyez, c'est toujours lié à une des mesures qui est dénoncée. À Sherbrooke, une cinquantaine de personnes ont manifesté. Il y a eu 5 arrestations. À ma connaissance, en googlant et en étant un peu sur la toile, c'est le seul endroit où est-ce qu'il y a eu des arrestations, à ma connaissance. Donc, 5 arrestations des personnes qui ont été arrêtées pour avoir utilisé de la gouache pour laisser leur empreinte sur la chaussée et sur les murs de l'édifice gouvernemental aux 200 de la rue Belvédère. Je ne sais pas c'est quel édifice à Sherbrooke. Si quelqu'un le sait, appelez-nous. Ensuite, À Québec, je suis pas mal fière parce que, comme je vous disais, les groupes ont fait le choix d'aller à Montréal, mais les étudiants et les étudiantes du cégep François-Xavier Garneau ont décidé d'organiser une mobilisation. La manifestation, ils étaient environ une soixantaine. C'était un blocage de rue. au coin de Charret et de Saint-Sacrement. Il y a des personnes, donc, du Cégep Sainte-Foy, du Cégep de Limoilou, de l'Université Laval. On a vu, entre autres, aussi des bannières d'Alternatives socialistes, de Québec solidaire. Et certaines personnes de mon exécutif, et oui, de l'exécutif du syndicat du Cégep François-Xavier Yarnaud qui étaient présents. Aussi, certains membres de la fanfare Tintanard. Donc, quand même, une belle, tu sais, c'est une belle mobilisation, c'est un bel effort. C'est sûr qu'il y était une soixantaine sous la pluie. Moi, j'ai assisté au départ parce que le départ était du Cégep Garneau. Mais des très belles bannières. Il était très motivé. Il devait avoir une université populaire dans la rue. Puis encore une fois, c'est un de mes collègues, Marc Rochette, prof de littérature, qui a donné un atelier sous la pluie aux étudiants qui étaient là sur la nouvelle. Donc, en tout cas, chapeau vraiment aux étudiants et étudiantes de François-Xavier Garneau. C'était vraiment une belle mobilisation. Si on prend, comme je vous le disais, ça fait trois fois que je le dis, mais je vais le répéter, que la... Ben, pas la majorité, en fait, tous les groupes de Québec, que ce soit le REPAC, les comités de logement, etc., avaient fait le choix d'embarquer des autobus pour aller à l'Action nationale à Montréal. Donc, espérant que la coalition régionale qui est à Québec va mettre de l'avant des actions. Si jamais vous êtes intéressé à lire plus sur le sujet, je vous invite à consulter le site web de la coalition. C'est http://www.nonauxhausses.org. Donc, voilà, Alta Charret. Maintenant, Claire, on va y aller avec ton petit... Ah, on a de la musique à écouter. Alors, la première chanson qu'on va entendre, c'est l'artiste, c'est Wack Taylor, et le titre de featuring Charlotte Savory. Et la chanson, c'est « To Dry Up ».
It's black in the middle of July and stable nature. I'll be summer.
Alors, vous êtes de retour avec nous, Ainsi Soit-elle, sur Ségaïa FM 88.3. Et un petit retour de ma part pour vous reparler de quelque chose auquel je vous avais largement convié au printemps dernier. C'était un colloque étudiant féministe qui est organisé à l'Université Laval avec l'ambition de mobiliser un petit peu sur le campus à Québec, contrairement à ce dont nous parlait Hélène tout à l'heure. On va toujours à Montréal et ben là on essaie de rester un peu et de faire des choses chez nous. Et ben le fruit de tout ça a quand même été des actes qu'on a choisi de vous faire lire simplement en version électronique parce que ça coûte beaucoup moins cher et du coup c'est gratuit.
Donc et c'est moderne.
C'est moderne, c'est contemporain.
C'est dans la vague.
Et on a aimé ça. Donc je vous invite à aller sur le site www.perspective-étudiante-féministe.org et donc .org à la fin, sans accent. Et là, vous trouverez les actes à télécharger qui, du coup, rendent compte de ce qui s'était dit un petit peu pendant ces deux journées. Alors évidemment, il y a toujours plus de panélistes que de contributrices, contributeurs, c'est normal. Donc là, il y a 12 contributions. 11 contributions d'étudiantes, en fait, et une contribution de Francine Descaries, qui était une des profs invitées, qui avait fait un petit peu l'ouverture. Donc, rapidement, pour vous donner
oui,
le goût...
Oui, t'as-tu des coups de cœur, ou est-ce que t'en as des conférences...
Moi, j'aime bien tout ce qui est la grosse théorie, alors j'aime particulièrement le chapitre 2, qui s'intitule « Réflexions sur les féminismes, théorie, pratique » et enjeux. Et en particulier, il y a un article de Céline Blanchard, qui était une étudiante qui a fait un petit séjour justement à la chaire Claire Bonenfant à l'Université Laval au moment du colloque et qui nous livre en fait son parcours presque autobiographique. Elle nous raconte comment elle en est venue aux études féministes, à un militantisme et comment elle a changé radicalement de carrière puisqu'elle était au départ dans le management et maintenant elle est chercheuse en sciences humaines et sociales sur le féminisme. Et ouais, je trouve que ça peut éveiller, réveiller des choses et donner envie de s'impliquer. Mm-hmm. Mais
ouais, autre coup de cœur, toi-même, ou peut-être plus intéressant, original, ou qui ressort de... qui ressortent tous et toutes.
Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a ça doit être le chapitre 4, qui est autour des arts et des médias, qui est le plus fourni. Et en même temps, je trouve ça assez révélateur. Donc, c'est à la fois un coup de cœur coloré d'une petite inquiétude où on peut constater que les thèmes, évidemment, comme le travail, par exemple, qui étaient des thèmes très importants dans les années 80, encore un peu 90, ont beaucoup moins la cote aujourd'hui.
Qui est important dans le champ de recherche d'études féministes?
Peut-être sans doute un peu partout, mais du coup, dans le champ de féministe aussi. Et aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus le fun, parfois, de parler de choses qui nous font plaisir, qui nous attirent, des corps, des sexualités.
Que la division du travail.
Que la division du travail, des trucs comme ça. En même temps, ça veut dire que peut-être on baisse la garde. Mm-hmm. Néanmoins, dans ce quatrième chapitre qui nous parle donc du féminisme dans les arts et les médias, il y a des choses assez intéressantes et assez rigolotes. Et dont le dernier article, qui est par une toute jeune chercheuse avec laquelle on a bien travaillé d'ailleurs, qui nous parle de plein de choses que vous avez pu voir, plein d'initiatives, de pièces de théâtre. Évidemment, tous les noms vont m'échapper là ce soir. C'est assez rigolo de le lire parce que c'est des choses que vous avez pu voir à l'occasion de manifestations ici ou là. Et puis finalement, elle en propose une certaine analyse qui est assez intéressante.
Ok, tu parles des groupes d'intervention qui vont servir de l'art dans les manifestations. Ça... Ok.
Et c'est vraiment bien fait. Donc, il y a en fait, c'est divisé en 5 parties, si je les retrouve.
Prends ton temps.
Et voilà. C'est que le papier, c'est peut-être moins le fun. C'est un peu comme le travail, mais néanmoins, c'est pratique quand même. Là, je suis mêlée dans tous mes boutons sur mon ordinateur. Et donc, bon, le développement des études féministes au Québec, puis, qui revient en fait sur une des ambitions du colloque qui visait à savoir d'où on parle, où on se situe aussi par rapport à ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire ne pas recommencer à chaque fois le même genre d'analyse, mais aller voir ceux qui nous ont précédés.
S'ancrer dans ce travail-là, dans le fond.
S'inscrire dans cette veine, même s'il y a des choses, évidemment, qui sont toujours à refaire, retravailler, mais s'aider de ce qui a été fait auparavant. Donc ça, c'est le premier... une espèce d'introduction par Francine Descaries. Mm-hmm. Le deuxième chapitre, donc, lui, est plus théorique. Réflexion sur les féminismes, théorie, pratique et enjeux.
Et te plaît plus. Et plus ta tasse de thé.
Trois articles. Le troisième paragraphe nous fait sortir un peu des frontières.
Troisième chapitre,
ouais. Intersection, moi je suis fatiguée. Troisième gros bloc, quoi, mm-hmm. qui est composé de deux articles. Là, c'est la question de la situation des femmes à l'international.
C'est là, entre autres, qu'il doit y avoir la communication que j'ai vue passer sur d'une fille d'origine haïtienne
oui.
qui parle de la question haïtienne.
C'est ça, migration et travail des femmes haïtiennes, penser le féminin pluriel. Et puis ensuite, il y en a une comparaison avec le Sénégal. Le quatrième, donc, c'était sur les arts et médias. Et mm-hmm. le dernier bloc, c'est corps, sexualité et rapport de pouvoir.
Ah, ça a l'air vraiment intéressant, sérieux, ça donne...
Donc, il y a beaucoup de choses, mais surtout, ce qui est sympa, c'est de se dire que c'est des... Bah, finalement, des jeunes qui en sont mm-hmm. au début. Donc, d'ailleurs, je pense que si vous avez des commentaires ou des idées ou n'importe quoi à faire à la lecture de ces actes, ça fera plaisir vraiment à tout le monde de les recevoir.
Il y a une adresse courrier.
Vu que les actes se téléchargent sur le site que dont je vous ai donné l'adresse tout à l'heure, il y a aussi un endroit pour nous écrire sur ce site-là.
Okay.
Et j'enchaîne avec une autre invitation. C'est que, donc, on a pas mal travaillé ces derniers temps pour monter ça. Il nous reste différentes petites choses. En particulier, donc, il y a un site maintenant, on a une liste de diffusion, on a obtenu un local à la chaire Claire Bonenfant. Il nous reste même quelques sous, si vous voulez tout savoir. Et on aimerait bien que ça puisse, que ces bribes de structure puissent continuer, puisque l'objectif, c'était de se réseauter sur le campus. L'union fait la force, donc on est plus fort quand on se rassemble un petit peu, qu'on se connaît et qu'on reste pas isolé au sein de nos départements respectifs. Sauf que pour beaucoup d'entre nous, c'est un petit peu la fin d'un parcours ou d'un cursus, ou alors on est en rédaction, donc on a moins le temps de continuer un peu ce genre de travail-là, même si on aimerait bien y participer ponctuellement encore un petit peu. Et pour passer le bébé, en fait, on vous invite, si vous êtes intéressé, le 30 novembre à 12h, donc c'est à la chaire d'études Claire Bonenfant qui se trouve...
Au de Coninck de l'Université Laval.
Au de Coninck. Mm-hmm. Pareil, si vous êtes intéressé, je vais vous redonner l'adresse du site tout à l'heure, écrivez-nous, ce sera le plus simple. Et l'idée de cette réunion, ce serait de passer les outils, passer le flambeau.
Mm-hmm. C'est une très bonne idée de faire.
Donc on compte sur vous, ce serait dommage que tout ça s'arrête là, s'épuise un petit peu. Et donc, je vous redonne l'adresse du site www.perspective-étudiante-féministe.org.
Parfait. Ben merci beaucoup, Claire.
Ça fait plaisir.
Passons le flambeau. C'est une excellente initiative. Puis en tout cas, ça donne le goût d'aller lire pour les personnes qui n'ont pas eu la chance d'assister au colloque. Donc, on continue toujours en musique avec Wax Taylor. Jean-Christophe Lesaou est un auteur, compositeur, producteur et manager français de musique encore connu justement sous ce nom-là. Comme vous avez pu l'entendre dans la première chanson, il mélange le trip-hop, le hip-hop ou encore le down-tempo. Ses principales influences musicales sont la musique noire américaine et la pop des années 60. C'est sûrement pour ça que j'apprécie beaucoup. Et prochaine chanson, si je me trompe bien, pas assez bien, que sera qu'on va entendre, DJ Chantal? Alors, c'est ce qu'on écoute maintenant.
A record of the delightful piece they're going to play this evening.
Waiting for is here.
I have something to tell you.
Hey, set off.
direction. People seem to be frightened, even terrified. I want everybody to understand this.
I don't understand.
I don't understand.
There are a lot of things we don't understand. I don't understand.
We need answers from you.
What did you expect to find? What did you expect to
find? What's going to be our future?
It's your responsibility to do something about it.
Well, I have the key in my hand. All I have to find is the lock. The lock. The lock. The lock.
Now listen to me, all of you.
De retour à Ainsi Squat-elle sur les ondes de CKIA FM 88,3. Tendez l'oreille, on parle de vous. Alors, journée de commémoration des personnes transgenres. J'avais envie de vous parler de ça. Ça s'est passé le 20 novembre. Peut-être le situer, c'est vraiment une journée internationale. Puis quand je dis internationale, quand j'ai voulu imprimer la liste des événements, activités de commémoration qui se passaient un petit peu partout dans le monde, ça faisait 20 pages, puis c'est vraiment pas des blagues. C'est sûr que c'était par ville, puis que j'étais allée par pays. Alors, pouvez-vous dire que dans de nombreuses villes, dans les pays comme l'Angleterre, la France, l'Australie, le Canada, les États-Unis, il y a eu des actions le 20 novembre, mais je vais vous parler plus particulièrement d'actions qui ont eu lieu à Ottawa. L'historique, cet événement annuel-là, donc, c'est pour commémorer les personnes transgenres qui ont subi de la violence ou qui sont mortes assassinées. Puis ça a commencé tout ça en 1998, donc ça fait quand même déjà un petit bout, avec la mort de Rita Hester, qui est une Afro-Américaine qui a été assassinée aux États-Unis, entre autres justement en raison de son identité sexuelle qu'elle performait, donc aux grandes dames de certaines personnes, visiblement. Donc, c'est pour ça que maintenant, il y a cette journée-là qui, ça se dit comme mieux en anglais, je trouve, Trans Day of Remembrance. J'ai pas trouvé la traduction, je parlais sur des sites français, donc on va y aller avec ça. Donc, à Ottawa, au début du mois de novembre, il y a commencé à avoir des gens qui ont commencé à s'organiser pour justement préparer des actions pour cette journée-là, puis c'est là que la tension a commencé un peu. Il faut se dire qu'aussi à Ottawa, c'est ce que je disais entre autres dans un autre article en lien avec ce sujet-là, c'est très tendu entre la police et la communauté gay et la communauté transgenre. Beaucoup d'harcèlement, de profilage social, etc. Donc, c'est déjà en partant, l'atmosphère est très tendue. Il y a eu une première action qui a été organisée conjointement par des militants et des militantes avec le comité de liaison de la police avec la communauté queer. Donc, dans cette marche-là, les policiers prenaient la parole. Donc, on peut deviner que ça faisait pas l'affaire de tout le monde. Donc, en réponse à cette action-là, il y a une deuxième activité, un deuxième groupe d'affinité qui a planifié un deuxième point de départ pour une marche alternative sans police. Pour les personnes, justement, qui n'étaient pas en accord ou qui n'étaient pas à l'aise avec l'implication de la police dans l'organisation. Puis à ça, il y a un troisième groupe d'affinité qui a organisé une action surprise qui a été d'accrocher une bannière à Queensway. Sur la bannière, on pouvait lire « Remember Stonewall », donc ce qui réfère à l'émeute contre les policiers à New York qui avait été menée par des drag queens. Il y a eu de la répression. Il y a deux des personnes qui ont accroché la bannière qui ont été arrêtées pour méfaits. Ces deux personnes-là ont refusé de s'identifier. Donc, pendant ce temps-là, pendant qu'il y avait les gens qui étaient arrêtés, qui avaient accroché la bannière, d'ailleurs, les photos sur le site étaient assez parlantes, les gens de la deuxième manifestation, donc la manifestation autonome sans flic, il y avait environ 200 personnes, donc, qui marchaient. Puis là, ils ont appris, dans le fond, qu'il y avait eu deux arrestations. Donc, il y a une cinquantaine de personnes qui ont quitté la manifestation puis ont improvisé, dans le fond, en apprenant la nouvelle, qu'il y avait deux personnes qui avaient été arrêtées. Ils ont organisé une action de solidarité, donc ils ont occupé le hall d'entrée du poste de police à Ottawa afin de revendiquer, d'exiger le retrait des charges, donc « drop all the charge », entendez mon superbe accent anglais, contre les deux personnes arrêtées. Peut-être juste faire un retour sur la manifestation avant de vous parler de la conclusion de ce qui s'est passé pour les deux personnes arrêtées, parce qu'évidemment, bon, il y a 50 personnes qui sont allées faire une action de soutien aux deux prisonniers politiques, mais pendant ce temps-là, la manifestation a continué, puis il y a une des organisatrices qui s'appelle Mélanie Pasteur qui a pris la parole pour vraiment spécifier pourquoi leur manifestation à eux et elle, pas de genre, avait décidé de le faire sans les flics. Puis dans le fond, c'est super bon comme argumentation. Ce qu'elle a dit, c'est que c'est super hypocrite d'organiser, surtout cette journée-là de Trans Day of Remembrance, d'organiser ça avec la police, étant donné que dans le fond, sur une base quotidienne, les personnes gays puis les personnes transgenres sont victimes de la violence de l'État et des policiers. Donc, tu sais, c'était d'où le non-sens d'organiser ça avec les flics. De retour à nos deux arrêtés, donc comme je vous disais, il y a eu une occupation, puis entre autres Dan Irving, qui est un professeur à l'Université de Carleton, qui a participé à l'occupation, puis qui a parlé aussi avec les deux jeunes qui étaient en détention, puis c'est un peu lui qui a pris la parole devant les médias, donc c'est pas parce que je préfère son statut social, mais c'était ça que j'avais comme référence. Donc lui, il a souligné l'importance de la solidarité avec les arrêtés, l'importance aussi du Trans Day of Remembrance. Un peu comme Mélanie Pasteur l'avait fait, a rappelé dans le fond que cette répression-là, oui, là, ça a l'air comme un peu plus spectaculaire ou symbolique parce que c'est cette journée-là que ça s'est passé, mais que dans le fond, ça se passait sur une base quotidienne. Puis il y a justement l'ironie qu'il y avait une première manifestation qui avait été organisée avec les policiers, mais dans le fond, leur réaction après ça, c'est que quand il y a une action autonome, on s'entend dessus comme dropper, suspendre une bannière. C'est pas la fin du monde non plus, là, qui ont arrêté ces personnes-là. Donc, ça montre bien l'hypocrisie du discours des flics, puis qui n'ont pas d'affaire à participer à ces actions-là. C'est clairement notre position ainsi soit-elle. Donc, conclusion, les deux jeunes ont été libérés pendant la nuit. Les policiers les avaient menacés de les garder en détention toute la nuit. On peut supposer que l'occupation de 50 personnes leur a enlevé
le goût
de le faire. Puis ces deux personnes-là devaient passer en cours le 21 novembre, mais la date a été reportée, donc c'est à suivre. On continue en musique, toujours avec Wax Taylor. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est Jean-Christophe Le Saou, qui est un auteur et compositeur qui a collaboré avec de nombreuses personnes, mais étant donné qu'on a un squattel, vous allez remarquer, évidemment, vous avez remarqué et vous continuez à remarquer qu'on vous fait découvrir, en fait, que Chantal, notre DJ, nous fait découvrir des pièces qu'il a fait avec des femmes. Cette fois, on écoute Featuring Voice, The Games You Play.
Say a one for the trouble, two for the time. Come on, y'all.
Anyway. How could you do this to me? Me, me,
I see y'all up
me.
There.
Oh, yeah.
is all gray.
Up the bottom, I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not fit to fall in, but I let you play them anyway. Sometimes I play staccato, you a vibrato, or you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not fit to fall in, but I let you play them anyway. Sometimes I play staccato, you a vibrato, while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not fit to fall in, but I let you play them anyway. Sometimes I play staccato, trip you up a vibrato, while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not fit to fall in, but I let you play them anyway.
Alors, on se balance les épaules, ainsi squat-elle. Quelle excellente musique, on se disait. C'est vraiment très original. Jean-Christophe Lesaou, en tout cas, un auteur, compositeur, producteur et manager français à découvrir. Donc, on continue en chronique livre avec Evelyne qui nous a préparé un excellent et très complet topo sur le livre « L'intervention féministe d'hier à aujourd'hui » qui est paru en 2010 chez Remue Ménage.
Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai lu en partie dernièrement. Ça s'appelle « L'intervention féministe d'hier à aujourd'hui, portrait d'une pratique sociale diversifiée ». C'est un ouvrage collectif qui se divise en quatre parties, qui comprend 11 articles et qui est dirigé par Christine Corbeil et Isabelle Marchand. C'est un ouvrage qui est paru aux éditions du Remue Ménage en octobre. Et pour vous le présenter, dans le fond, je vais suivre un peu le plan de présentation de Corbeil et Marchand qu'elle nous présente dans l'introduction du volume. Donc, au début de l'introduction, Corbeil et Marchand font un petit historique de l'intervention féministe. Elle montre bien comment l'intervention féministe est née des mouvements sociaux des années 60 et 70. Et elle montre bien comment les valeurs de l'intervention féministe sont les mêmes valeurs que celles de ces mouvements sociaux-là, c'est-à-dire l'égalité, la justice sociale, la solidarité. Elles avancent aussi une petite définition de l'intervention féministe. Pour elles, l'intervention féministe se base sur trois choses. D'abord, la reconnaissance du potentiel des femmes. Ensuite, l'importance de la reprise de pouvoir sur leur vie. Et ensuite, l'égalité, donc au niveau de la relation d'aide, donc des relations d'aide égalitaires. Au Québec, c'est le mouvement des femmes a beaucoup baissé le fait que les services sociaux traitent les symptômes des femmes comme des symptômes individuels, comme des problèmes individuels plutôt que comme des problèmes relevant d'une structure, relevant du patriarcat. Et donc, c'est dans cette optique-là que l'intervention féministe est née. Le mouvement des femmes et l'intervention féministe ont reçu plusieurs critiques, toute l'analyse sur l'intersectionnalité. Donc, les féministes se sont fait accuser de colonialisme, racisme, classisme, hétérosexisme. Et grâce à ces critiques-là, l'intervention féministe s'est ouverte, a développé des liens, des solidarités au niveau local ou international et a essayé de développer des pratiques culturellement adaptées. Donc ça, c'est un petit peu pour l'historique. La question que l'ouvrage se pose, dans le fond, c'est où en est rendue l'intervention féministe aujourd'hui? Est-ce qu'elle est encore subversive? Est-ce qu'elle porte encore cette visée de changement social-là du patriarcat? Le livre se demande, dans le fond, est-ce que l'intervention féministe résiste bien à la montée de la droite en ce moment? Dans leur introduction, Christine Corbeil et Isabelle Marchand se demandent un peu, nous expliquent un peu pourquoi elles trouvaient pertinent de publier un livre comme ça aujourd'hui. En fait, elles nous expliquent qu'il y a eu peu d'écrits et peu de réflexions francophones sur l'intervention féministe comme théorie et comme pratique. Donc, pour monter ce livre-là, ils ont fait appel à des chercheuses et aussi à des intervenantes. Donc, ça donne un recueil qui dresse pas un portrait exhaustif de l'intervention féministe au Québec, mais qui nous fait découvrir plusieurs pratiques novatrices. C'est aussi un livre qui propose un regard critique sur l'intervention féministe, donc pas du tout de complaisance, mais beaucoup de réflexion. C'est un livre qui pose plus de questions qu'il n'amène de réponses. Donc, comme je l'ai annoncé, ce livre-là se divise en quatre parties. D'abord, une partie sur l'intervention féministe comme telle, qu'est-ce que c'est, quelles sont les théories qui l'ont alimentée, quelles sont les pratiques que l'intervention féministe implique. Donc, ce texte-là est basé beaucoup sur des écrits et sur des témoignages d'intervenantes aussi. En deuxième partie, on parle de diversité et d'intersectionnalité, donc les critiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. La partie s'intitule « Quels outils devant l'hétérogénéité de l'expérience des femmes? » Donc, des articles sur la diversité ethnoculturelle, un article sur les femmes réfugiées et demandeurs d'asile. Il y a aussi un article sur le Bouclier d'Athéna, qui est un groupe à Montréal. Et cet article-là nous propose une réflexion sur comment rejoindre les femmes de diverses communautés en matière de violence conjugale. Dans la troisième partie du livre, on parle justement de violences faites aux femmes. Donc, un article sur les maisons pour femmes victimes de violences et comment ces maisons-là font face à un danger de glissement vers des approches toujours plus psychologisantes. On parle ensuite des CALAX, des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, et encore là du risque de dépolitisation de ces centres-là et du danger que les intervenantes courent de se centrer toujours sur les besoins immédiats des femmes individuelles plutôt que d'inscrire leur lutte toujours dans un combat pour changer les structures et changer le patriarcat. On a dans la partie aussi un article sur les violences au sein des couples lesbiens. Les auteurs se demandent, serait-ce un sujet tabou chez les féministes? Les auteurs se demandent aussi quelles sont les similitudes, quelles sont les différences qui sont vécues par ces couples-là et se demandent aussi si ce serait possible d'intervenir de manière féministe auprès non seulement des survivantes, mais aussi des agresseurs. Dans la partie sur la violence faite aux femmes, il y a aussi un article sur la protection des enfants exposés à la violence conjugale. On sait que les féministes au Québec ont réussi à faire définir dans les textes de loi la violence conjugale comme une prise de pouvoir et non comme une perte de contrôle, comme un exercice de domination justement de la personne agresseur sur la personne agressée. Mais malheureusement, dans le discours sur la protection de l'enfant, la violence conjugale est considérée comme un conflit entre les parents. Donc, les auteurs féministes se demandent si ça n'aurait pas un effet de blâmer la mère, dans le fond, en quelque sorte. Voilà pour la troisième partie. Dans la quatrième partie de l'ouvrage, c'est sur l'intervention féministe en contexte de marginalité et de pauvreté. On parle de l'action des centres de femmes. Les centres de femmes qui sont à la fois un service d'aide pour les femmes, un lieu pour faire de l'éducation, de la sensibilisation et aussi un lieu de base pour des actions collectives de défense de droits. Il y a aussi un article finalement sur les femmes en prison et sur des expériences artistiques qui ont été tentées avec elles, notamment au niveau de la danse, pour modifier leur perception d'elles-mêmes, leur rapport au corps et leur redonner du pouvoir sur leur vie. Donc, c'est ce qui fait le tour un peu rapidement de cet ouvrage-là, l'intervention féministe d'hier à aujourd'hui. J'avais envie de revenir avec vous sur le tout premier chapitre pour essayer de parler un peu plus de l'intervention féministe, qu'est-ce que c'est. Mais avant d'entrer plus dans les détails, je vous propose de passer en musique.
Track or roll, so I wanna know who's right in this train. Tell me, belong. Can only see the wrong in the situation as the picture's playing. No dedication or conviction. And what I'm saying, weight laying heavy on my soul, invisible. Manage to keep it moving, but don't know who's in control. Y'all used to be so beautiful. Could appreciate how the sun illuminates the smallest thing and motivates the birds to sing at the crack of dawn. Spread their wings and take on a new flight before the night falls. Calls them back to sleep, so they retreat under the sheet of indigo that glows from the harvest moon. I paint a picture with Miss June and connect with everyone in the room who wears a smile over their gloom, trying to sweep it to the corner with the broom. And yet the melancholy looms, secretly anticipating its finale. Soon it has to let up before I give up.
Tell me who is running this game.
Come on, y'all. Who's running this game?
Ainsi Squat-Telle, émission féministe et libertaire favorite de tous et toutes à CKIFM 88,3, la station la plus à gauche sur la bande FM. Donc, calendrier militant, tout le monde, prenez votre crayon. La première annonce que je veux faire est un peu longue, mais elle me tient particulièrement à cœur. C'est une campagne, en fait, c'est 5 000 x 5 $, une campagne pour ramasser 25 000 $ pour le Fonds de défense légale du G20 du Québec, 5 $ à la fois. Donc, c'est pour appuyer les personnes qui ont été arrêtées au G20 cet été. On se rappelle que suite à la plus grande arrestation de masse de l'histoire du Canada, plusieurs douzaines de manifestants, manifestantes font toujours face à des accusations. La majorité des accusations ont été retirées faute de preuves, ce qui prouve justement l'arbitraire des arrestations, mais il y a quand même des organisateurs communautaires et organisatrices, des militants et des militantes du Québec qui font encore face à des accusations, puis c'est les accusations les plus graves. Hein. On parle de complot. Ils sont assignés à résidence, ils vont subir plusieurs années de procédures légales parce que c'est ça qui est épuisant avec ce processus-là, hein, c'est que c'est les conditions, puis même si la preuve n'a pas été faite, dans le fond, t'es comme présumé coupable, en tout cas avec les conditions justement. Donc, la priorité du Fonds de défense légale du G20 est de couvrir les dépenses légales de toutes ces personnes-là qui risquent potentiellement la prison ou même dans certains cas la déportation. Donc, c'est quand même des conséquences assez graves. Le fonds se base sur le principe que personne ne devrait être obligé de plaider coupable, de sentir obligé de négocier son plaidoyer avec la couronne à cause d'un manque de fonds de ressources. Puis, évidemment, le fonds considère que toutes les arrestations sont illégitimes et que les personnes qu'on défend sont des prisonniers, prisonnières politiques, d'où le « retirer toutes les accusations »,« drop all the charges ». Donc, le Fonds de défense égale du G20 est géré, c'est peut-être important pour que les gens le sachent, est géré par un groupe de 6 organisateurs et organisatrices communautaires qui n'ont pas été accusés, puis qui, dans le fond, s'assurent que les fonds légaux sont dépensés de manière adéquate. Donc, la campagne qui se passe à Québec, à Toronto et à Montréal simultanément, c'est du 13 novembre au 17 décembre. Donc, on demande, dans le fond, à 5000 sympathisants, sympathisantes, des manifestants de donner chaque personne, que chaque personne donne 5 $. Le but de ramasser 25 000 $ durant le prochain mois pour le Fonds de défense légale. À Québec, on a 2 boîtes noires, donc une à la page noire, au 265 rue Dorchester, téléphone 977-1955 dans le 418. Je vous donnerai pas les heures d'ouverture, je vous suggère de téléphoner avant, mais ouais, c'est ça. Et à la JT, 251 rue Dorchester, le téléphone 522-6133. Je vous invite aussi tout simplement à téléphoner avant pour être sûr de vous pointer et de pouvoir laisser votre 5 $. Donc, campagne très, très importante. On invite vraiment tout le monde à participer. Et vous avez jusqu'au 17 décembre pour le faire. Ensuite, on va faire une petite plug pour notre station bien-aimée Sequoia parce que c'est la dernière émission d'égalité genre féminin le lundi 29 novembre qui va être au Café Babylone entre 18h et 19h. Donc, et oui, après 3 saisons bien remplies, l'émission égalité genre féminin quitte les ondes. Donc, au programme, on va avoir entre autres une rencontre avec Rosane Potin, une réalisatrice bien connue à Sequoitel puisqu'elle est venue nous présenter son film « Attention féministe ». Et Elisabeth Ossandon aussi, qui va nous parler du défi d'accueillir des nouveaux arrivants et arrivantes dans Charlevoix. Il y a aussi 2 journalistes en herbe qui vont faire part de leur expérience, Marion Desjardins, photographe, et Katia Gaïde, qui a participé aussi à l'élaboration de l'émission Égalité genre féminin. Puis en musique, on va avoir Dusu Koulibaly qui va réchauffer les oreilles de toutes les personnes qui seront là. C'est un rendez-vous, l'enregistrement de la dernière émission d'Égalité genre féminin. Ça fait 8 fois que je dis le nom de l'émission, si jamais vous voulez pas l'oublier. Lundi 29 novembre 2010, entre 18h et 19h au Café Babylone. Et on vous rappelle que cet endroit bien chaleureux et connu de tous et toutes est au 180 rue Saint-Vallier-Est. Sinon, la page noire, on aime bien plugger les événements de ce groupe cher à notre cœur. 25 novembre, 5 à 7 pour le lancement du livre « Hémisphère gauche » chez Lux Éditeur. En présence de l'auteur lui-même, Ramig Kouchian, à qui j'aurais 2 mots à dire parce qu'en fait, je vais commencer par le début, objectivement. Dans le fond, son livre relate avec pédagogie, la pensée de plusieurs auteurs. Donc, en fait, ce qu'il nous dit, en gros, c'est que depuis la seconde moitié des années 1990, il y a un renouveau au niveau de la critique sociale et politique. Puis, il y a comme une bataille d'idées. Donc, lui, il essaie de faire un topo de ça en parlant de nombreux auteurs. En fait, il y en a 15 et là-dessus, il y a 2 femmes. Vous pouvez comprendre la suite de mon analyse là-dessus. Mais en tout cas, au nombre des auteurs, il y a quand même Édouard Saïd. Je l'ai nommé, les 2 femmes, hein? Il y a Judith Butler, je l'ai dit comme il faut.
Ouais.
Merci. Et Gayatri Spivak. Sinon, c'est ça, plein d'auteurs, Daniel Ben Saïd, Paolo Virno, en tout cas, il y en a plusieurs, fait que si jamais vous êtes intéressé à découvrir des femmes de la seconde moitié 1990, ben lisez le livre, vous en trouvez au moins 2. Mais tout ça pour dire que c'est un 5 à 7, lancement du livre à la page noire, le 25 novembre, 5 à 7, il va y avoir des bouchées et des rafraîchissements. Sinon, pour les personnes qui veulent participer à la réflexion toujours très intense et, oh mon Dieu, comment conflictuelle sur le débat sur la prostitution, en fait, abolitionniste ou pro-travailleur du sexe, il y a Eve Lamont qui vient de jeter son caillou, ou en tout cas son grain de sel dans le débat avec le documentaire « L'imposture, la prostitution mise à nu » qui est présenté le 27 novembre. À 17h45 au Cinéma Cartier. Donc, je vous rappelle, le Cinéma Cartier, c'est au 10-19 Avenue Cartier à Québec. Donc, elle, en fait, pour l'avoir entendue en entrevue, elle disait que quand elle a commencé son documentaire, elle n'avait pas de position. Elle voulait comme juste faire des entrevues avec des anciennes prostituées. Puis, au contact de ces femmes-là, dans le fond, Elle a vraiment adopté une posture abolitionniste. Elle dit « La tendance actuelle, c'est comme ça que ça se résume le film, la tendance actuelle à faire de la prostitution un métier comme un autre est démentie par des femmes qui se sont prostituées. » Donc, elle, c'est la position qui se respecte, là. C'est sa position à travers le témoignage de ces femmes-là qui disent, dans le fond, ben, en tout cas, pour avoir vu la bande-annonce, comment elles ont dû se droguer ou comment... Comment, même si elle ne se prostitue plus maintenant, elle porte encore les séquelles de cette prostituée, finalement, puis de l'espèce de cercle vicieux, etc. Donc, vous savez qu'on continue à penser à ça très fort, ainsi soit-elle. On ne sait pas toujours pas ce qu'on en pense, mais moi, ce que je trouve intéressant, dans le fond, c'est d'amener les personnes qui en parlent, puis de vous ouvrir des portes, puis à vous de vous faire une tête là-dessus. Dernier petit événement dont on pourrait parler, c'est le 28 novembre, la nuit du montage 2010 de Kino, qui va avoir lieu toujours à l'Agité. Il se passe tellement de choses dans ce bar fantastique au 251 Dorchester, je vous le rappelle. Donc, c'est la deuxième année consécutive à Québec que c'est la nuit du montage. Le concept, dans le fond, c'est que, dans le fond, ils vont réunir des monteurs à Québec et à Marseille, puis... ils vont se donner des rushs tournés dans chacune des villes participantes. Le tout résultera en des films totalement différents, mais pouvant contenir les mêmes images, concepts. Donc, le 19 novembre en soirée, les monteurs et monteuses, je suppose, ça n'était pas féminisé, inscrits devront venir au local de Kino. Le local Kino est au 820 Charest Est, bureau 132. Donc, ils visionnent les rushs. Moi, je suis vraiment néophyte en la matière. Je suppose que c'est des... extraits vidéo. Tu peux-tu nous éclairer, Claire?
C'est ce qui a été tourné et qui n'est pas monté, justement.
Ah, voilà, les petits rushs. Donc, ils vont visionner les rushs et en faire l'acquisition. Par la suite, ils ont 48 heures pour faire le montage, qui va être rendu public le dimanche 28 novembre à 20 heures. Donc, on va avoir le temps de nous laisser, de vous laisser sur Wax Taylor. Excellente découverte, en tout cas pour moi aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Merci Claire d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
Merci Chantal pour la mise en onde et super musique. Et on se laisse là-dessus. On s'entend par la voix et le regard la semaine prochaine. You are a wonderful story.